On verra. Et surtout sur un temps aussi vaste, d'avoir su respecter vos horaires strictement. Je vous félicite. Je voudrais vous poser quelques questions, trois questions. D'abord, est-ce qu'il y a la présence de prostituées libres au 17e toujours, hein, de prostituées libres en Espagne, en grand nombre, vous en avez cité quelques-unes, avec le problème des souteneurs? Parce qu'on a des documents là-dessus pour être à côté du bordel municipal. Deuxième question, est-ce qu'il y a eu des envois dans les, comme en France, dans les colonies américaines en Espagne, de convois, de véritables convois de prostituées à l'époque de la Régence, par exemple? Et troisièmement, est-ce qu'il y a eu à la fin du 17e, même au début du 18e, en Espagne, cette exclusion médicale que nous retrouvons, notamment dans vos travaux sur Toulouse, au 18e, cette exclusion médicale à cause des maladies vénériennes, notamment syphilis, où on a pris les particuliers pour des bons commissaires?
Alors, sur le premier point, la question de la prostitution libre, elle est très peu étudiée par les historiens espagnols de la prostitution. Mais c'est un problème de méthode qu'on retrouve en histoire, comme certainement dans toutes les disciplines. Si je veux trouver ces prostituées-là, il ne faut pas que j'utilise les travaux sur l'histoire de la prostitution, mais les travaux sur l'histoire de l'Inquisition ou de la criminalité. Et là, je trouve un certain nombre de données qui permettent de voir que, en fait, c'est l'éternel problème. Si on ferme les maisons de tolérance, fatalement, nous avons une augmentation, les filles vont ailleurs. Et donc, le problème du souteneur se pose, comme il se pose d'ailleurs dans la Mansebia. Donc là, pour l'instant, il y a moins de choses. On le voit surtout, c'est un petit peu comme si on voulait faire l'histoire de la prostitution en France. Sur Paris, on trouve ces maisons, elles sont bien étudiées, on a beaucoup de documentation. Sur Toulouse, on ne va pas très loin. On peut cerner, grâce aux archives criminelles, un certain nombre de souteneurs, mais on ne va pas finalement très loin. Et puis ça reste toujours du sordide, de quelques petites choses. Donc il est clair qu'à partir du moment où on ferme les bordels municipaux, les filles sont ailleurs, et que là, ça devient totalement ingérable. Par voie de conséquence, l'attitude face à la prostitution évolue. En fait, la prostituée devient, comment dire, elle est traitée au même titre que les pauvres. Et donc, il devient dès lors, tout à fait, de mon point de vue, illégitime de dissocier cette question-là, parce que, en même temps, il faut le dire haut et fort quand on entend certaines choses actuellement, la prostitution est toujours liée à l'histoire de la misère. Il faut arrêter avec les fantasmes selon lesquels les femmes seraient toutes volontaires et aimeraient ça. C'est une absurdité, de mon point de vue. C'est l'historien qui parle. Je ne porte pas de jugement, c'est un constat. Concernant la question de l'envoi des filles aux colonies. Alors justement, la Régence a essayé d'envoyer des prostituées qui pullulaient sur Paris et qui posaient un véritable problème dans les colonies, et c'est l'époque du système de l'AS, où les colonies deviennent un petit peu l'Eldorado. Le problème, c'est que ça n'a pas du tout marché. Ça rend donc compte d'un durcissement de la politique de la Régence. Alors, de la Régence, je pourrais vous en parler des heures. J'adore la Régence, je connais très bien cette période-là. La Régence, l'image que l'on a libérale de la Régence, c'est la poudre aux yeux, c'est la communication du Régent. C'est une vision qui ne résiste pas à l'analyse. Quand vous regardez le Régent et ce qu'il a fait, certes, c'est l'un des plus grands débauchés qui a existé. Le parc aux cerfs, ce qu'il faisait avec l'abbé Dubois, mais quand il s'agissait des autres, il était beaucoup moins tolérant, notamment le cardinal Dubois. Et ils ont développé une réglementation contre la pauvreté qui se fait au lendemain, qui se met en place au lendemain de la Régence, mais qui est produite par l'équipe de la Régence. Qui montre bien qu'il y a un grand durcissement à ce niveau-là, et la question de la prostitution participe de ce durcissement. D'une façon plus générale, pour expliquer ce durcissement, il y a certes une inflation de la misère à ce moment-là, mais il y a surtout une crainte grandissante à propos de l'étranger. Et cette crainte grandissante à propos de l'étranger en général, elle vient, c'est une des répercussions, me semble-t-il, de la peste de Provence qui a fait très très peur et qui conditionne l'histoire de cette période-là. Alors, défier à l'étranger, en soi, ce n'était pas une si mauvaise idée, mais encore fallait-il avoir une idée de colonial pour ça. Or, c'est-à-dire qu'on développe des colonies de peuplement. Ça n'a jamais été le cas et ça ne le sera pas jusqu'en 1763, le traité de Paris et la fin du premier empire colonial. Donc, en même temps, pour les colons sur place, ils n'étaient pas ravis de voir arriver ce genre de filles qui était difficile à tenir. Les capitaines sur les bateaux, ils n'étaient pas enchantés d'avoir ce genre de cargaison parce que, du coup, ça rendait très difficile le commandement. Enfin, pour l'exclusion en Espagne comme en France, on ne le voit pas de la même façon pour une raison simple. C'est que l'Espagne, il n'y a pas que la bonne société qui va faire des tours en Espagne. L'Espagne attire beaucoup les pauvres, notamment pour une raison simple, c'est qu'il y a énormément de couvents, beaucoup plus qu'en France, et qui gagnent une tradition d'hospitalité. Et donc, la question de la pauvreté a pris en Espagne des proportions plus importantes. Et en même temps, pour autant que l'on sache, les couvents qui accueillent ont développé une grande tradition de traitement des syphilitiques et autres. Donc, ça se pose le problème de la syphilis, qui est une conséquence de la dépravation des mœurs générales. En Espagne, comme en France, mais plus tardivement, semble-t-il, en France, on trouve des quartiers pour les syphilitiques beaucoup plus tôt. La syphilis qui apparaît d'abord en Italie et dont on parlait à cette époque-là. Les Français parlaient du mal italien, mais partout ailleurs du mal français. Donc, là, il y a une chose qui rend bien compte de la question. Parmi les petits trucs que j'essaie de trouver pour mes étudiants, pour les accrocher, il y a un très bon film qui parle de l'Espagne de la fin du XVIIe siècle avec le Viggo Mortensen, vous savez, celui qui joue le Seigneur des Anneaux. Donc normalement, tous les étudiants le connaissent. Et ce film s'appelle Capitaine à la Triste. Et entre autres choses, il fréquente une courtisane qui sera contaminée par le roi. Et elle terminera justement dans un de ses hospices.
Vous avez répété le titre du film parce qu'on ne vous entend pas très bien.
Ah, excusez-moi, À la Triste.
Pardon ?
À la Triste.
Mais c'est un film.
Ah oui, mais
c'est un film.
Ah oui, mais c'est la reconstitution du Capitaine à la Triste.
Oui.
Mais en France, nous connaissons la série des 7 volumes du Capitaine à la Triste.
Oui, mais. Alors, si je parle de ça, par exemple, je parlais du film Cyrano de Bergerac, que vous avez sans doute tous vu, mes étudiants n'en ont jamais entendu parler.
Ah, d'accord.
Donc, Le Capitaine à la Triste, si je leur dis que ça a été publié en 7 volumes, c'est même plus la peine que j'ajoute un mot. Si je leur parle de Viggo Mortensen, là, ça accroche.
Là, ça marche. C'est la différence entre les générations. Je vous remercie. Henri, j'ai peut-être pas bien compris le chiffre pour Madrid. J'ai compris qu'il y avait 30 000 prostituées.
Oui. Combien d'habitants ? 120 à 130 000.
Alors, ce rapport est pareil, invraisemblable.
Tout à fait.
Parce que ça veut dire que toutes les femmes ont été des prostituées. Tu as même des emplois et des personnes plus âgées qui. Ça ne peut pas rapporter beaucoup.
Quand on voit les prostituées toulousaines du XVIIIe siècle, elles se prostituaient parfois pour un mouchoir. Donc, non, mais c'est ce que je disais, les chiffres n'ont aucune valeur statistique. C'est simplement l'impression d'un pullulement de ces prostituées, de qu'elles occupent des quartiers, des espaces. Oui. Mais tout à fait, une fois encore, le chiffre, je vous le donne parce que je n'ai que ça comme chiffre. De la même façon, je pourrais vous parler ultérieurement, si je viens vous reparler du XVIe siècle toulousain, de la pauvreté à Toulouse. Il se trouve que j'ai des chiffres pour le XVIe siècle, on va jusqu'à 8 000 pauvres à Toulouse alors que la population fait 30 000 personnes. On peut discuter, mais
ça, je le crois dans l'auteur.
Moi aussi, mais c'est un ordre de grandeur. Quand on vous dit 20 000 prostituées à Paris à la fin du XVIIe siècle, comment on peut les comptabiliser? C'est pas possible, c'est un ordre de grandeur.
Oui, c'est tout. Monsieur Jean,
j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre explication qui nous éclaire sur la version espagnole du projet de Tilly-Bond. Vous me permettez de poser deux questions. Première question, comment articuler la banalité de la prostitution en Espagne avec la pratique religieuse paraît très forte. Deuxième question, vous avez évoqué le fait que les Espagnols seraient des femmes plutôt faciles. Comment le concilier avec la tradition de sérénité des marques? Elle me dit que c'est au nord.
D'abord, je n'ai pas les réponses à tout. Simplement, je crois qu'il y a l'être et le paraître, et qu'il y a des périodes de crise très profondes. Là, l'Espagne touche le fond à ce moment-là. Notamment les villes, les périphéries se rétabliront, mais enfin la crise de l'Espagne au XVIIe siècle, c'est quand même quelque chose de phénoménal. Pour diverses raisons, on discute encore et on discutera longtemps de la profondeur de la crise, mais le phénomène est là. Donc je pense que... j'ose pas dire qu'on fait des accords avec le Seigneur, mais quand même. Il y a un peu de ça. C'est ce que disent les contemporains. On peut, là, dans le journal que j'évoquais de cet étudiant anglais à Salamanque, il paie des femmes qui ont une vie tout à fait normale et qui font des passes. Donc, à l'évidence, du moment que c'est pas vu, pas pris. C'est comme, si vous voulez, mais par exemple en France, au XVIIe siècle, au moment de la contre-réforme vraiment qui se met en branle, notamment dans la seconde moitié, on ne voit pas de prostituées, vraiment. Pour Toulouse, je ne les vois qu'à un moment en particulier où on se pose la question, c'est au moment de la peste. Sinon, on ne les voit pas. Donc, il y a des tas de choses comme ça qui touchent les éléments les plus quotidiens pour lesquels l'historien est vraiment très démuni. Je pourrais vous parler, par exemple, pour Toulouse, de quelque chose qui est la plus ancienne des institutions toulousaines, celle des disonniers. Les disonniers, si on avait leurs archives, les disonniers, ce sont des commissaires de quartier qui vivaient au sein des moulons, qui étaient des représentants de la municipalité, des capitouls. Non seulement des capitouls, mais d'après mes informations, ils auraient disparu à la veille de la Seconde Guerre mondiale, ces disonniers-là. On trouve encore l'équivalent du disonnier à Perpignan aujourd'hui, avec des commissaires de quartier. Ces gens-là, ils étaient censés tenir des listes des habitants de tous leurs pâtés de maison, et ils étaient des percepteurs d'impôts, des surveillants, etc. Si je n'ai pratiqué aucune de ces listes, rien ne subsiste. Donc il y a des éléments... De la quotidienneté que l'on n'a pas. De la même façon que dans ces pâtés de maison, j'ai trouvé des traces de confréries, des confréries d'habitants qui sont censées ne pas exister. Dit autrement, alors que tous les travaux qu'on peut lire, sociologues, juristes, etc., vous présentent les relations de voisinage comme une relation un petit peu informelle liée à la proximité du domicile, là, dans Toulouse, au XVIIIe siècle en tout cas, il y a des disonniers qui structurent la vie quotidienne et qui sont, entre autres choses, les premiers à surveiller et à savoir s'il y a une prostituée dans le moulon, par exemple. Et la prostituée, ils la toléreront tant que ça ne fait pas trop de tapage, tant qu'il n'y a pas trop de clients. Le jour où il y a la moindre plainte, là, le lendemain, ils font en sorte de l'éjecter du moulon. De tous ces éléments-là, du plus quotidien, qui est le plus intéressant, finalement, là, il y a une difficulté, une résistance à laquelle on a du mal à passer outre. Donc, simplement, c'est une question de regard. Juste un autre exemple, si vous le permettez. Je pourrais prendre... j'étais dans un magasin juste à côté, une librairie qui vend des catalogues d'expositions, etc. Et donc, je suis spécialiste d'histoire de la ville. Toutes les représentations de la ville en général, et de Toulouse en particulier, je les collectionne depuis fort longtemps. Et je me suis rendu compte d'une chose, qui fera toujours, s'il y a une historienne de l'art ici, je vais peut-être le faire bondir, mais dans toutes les représentations des villes, dans toutes les représentations où l'artiste veut créer un effet de réel, vous le constaterez à 9 fois sur 10, il y a un chien sur le tableau ou sur la représentation. Un chien. Peu importe la race. Mais vous constaterez qu'il y a toujours un chien. Et que parfois, si vous partez de ces représentations, si je pourrais en mener quelques exemples à l'occasion, ça ne correspond pas aux critères de lecture d'un historien de l'art classique, mais vous avez le chien. Et à partir du chien, vous pouvez tracer d'autres lignes et d'autres perspectives du tableau. Et pourtant, à ma connaissance, aucun historien de l'art, parce que ça fait 20 ans que je travaille sur les chiens maintenant, que j'accumule l'information, aucun historien de l'art n'a vu ça. Donc il voit les tableaux et les étudie de façon très approfondie, très intéressante, très riche, tout ce que vous voulez, mais le chien, il ne le voit pas. Et quand je fais l'expérience avec mes étudiants en TD, où je leur montre des représentations diverses et variées, le chien, il ne le voit pas. Donc, je pense qu'il y a des choses dans les questions sociales où, nous aussi, notre société, il y a des choses qu'on ne veut pas voir. L'illustration. Avant de vouloir être historien, ce qui m'avait un petit peu rapproché de ce que je croyais savoir à cette époque-là, quand j'étais jeune, de Bartolomé Benassar, il y avait la volonté de m'occuper d'enfants handicapés. Et parmi les projets que j'avais, que j'ai toujours, il y a celle de faire une histoire des handicapés en France. Cette histoire-là, elle ne sera jamais écrite. Il n'y a pas les documents. Notre société, elle ne veut pas voir les handicapés. Elle veut voir peut-être les sourds, elle veut voir les aveugles, mais tous les autres, on ne les voit pas. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Je ne peux pas vous en parler. Les archéologues, lorsqu'ils fouillent, trouvez-moi un rapport de fouille où on vous montre un handicapé. Je n'en ai jamais trouvé jusqu'à maintenant. C'est pas qu'il n'y en ait pas. C'est que, fatalement, ils ne l'ont pas vu. Et moi, dans mes documents sur Toulouse, je pourrais vous parler de quelques sourds-muets à la fin du XVIIIe siècle, mais des handicapés à proprement parler, y a... Donc, notre société ne veut pas voir certaines choses, et je pense là que dans cette société qui se donne un modèle de pureté de sang, d'un modèle catholique, un idéal, et qui est indubitable, l'Espagne du XVIIe siècle, c'est le temps des grands mystiques, c'est le temps d'une élévation indéniable dans l'art, la littérature, tout ce que vous voulez. À côté de ça, ben,
Je voudrais vous remercier parce que c'était très intéressant et en même temps vous demander quelques précisions parce que vous n'êtes pas tombé dans le piège de prendre la littérature de l'époque comme mentionné. Il y a toujours des statistiques très précises, par exemple Robert Mambou ou Laurent Durie ont utilisé pour la sorcellerie et pour le carnaval des statistiques de religieux, des statistiques de l'inquisition et autres qui leur permettaient de préciser les procès en sorcellerie par exemple. Mais est-ce que pour la prostituée vous avez des statistiques de tribunaux par exemple? À ma connaissance, les coupes historiques sont tardives et au XVIIIe siècle, on les voit apparaître. Enfin, on a comparé les sources de Goya, les décès de Goya, avec ce qui se passait dans les tribunaux précisément, où les filles étaient traînées, étaient garantées, parce qu'elles avaient été sensibles, dit Goya, à l'égard de ces décès. Mais en littérature, par exemple, Lagardouille, des séries, il y a des grands romans picaresques, ce n'est pas parce que Célestine a été traduite par les Français et a été traitée de maquerelle par les Français, elle n'est pas du tout maquerelle, elle est entremetteuse. Elle est la femme qui permet à un jeune homme d'une autre classe, parce que les parents ne veulent pas le mariage, d'entrer dans la maison. Mais Mélibé n'est pas des prostituées, et Calyste et Mélibé sont victimes du rigorisme familial. Peut-être d'origine juive impure, d'ailleurs, de l'auteur et de Calixte. Mais en fait, ça, c'est la question religieuse.
Mais attention, c'est quand même, c'est une entremetteuse, mais c'est une ex-prostituée.
Oui,
on le dit, attention.
Dame de la Sarre d'Orme, la mère aussi, a un enfant avec un mulâtre. Il y a des origines impures. D'accord. La Gadou, il y avait Séville. La fouine de Séville, elle a le suelo de las bourses. Elle est celle qui crochète les bourses. Alors, on peut prendre la bourse dans tous les sens du terme, mais pas sûr que ce soit vrai en espagnol. Mais la Gadou, il y a ce mari. Elle a plusieurs maris qu'elle roule abondamment, qu'elle trompe abondamment chaque fois, mais elle a plusieurs maris qui meurent dans des circonstances un peu bizarres. Est-ce que cela suffit à dire c'est une prostituée parce que c'est une femme libre et qui pratique l'amour libre et tarifée. Alors tarifée, bon, c'est pas très précisé dans la littérature aussi les tarifs. L'or, enfin, je ne sais pas ce qu'elle se faisait donner. C'est, tout ça est très flou. Alors, c'est pour ça que je me demande s'il y a des sources juridiques, des statistiques.
Oui. Parce qu'il y a des travaux, comme en France, sur l'histoire de la criminalité. Et les Espagnols ont cette chance incroyable d'avoir l'Inquisition. Et des tribunaux d'Inquisition qui s'intéressent à ce genre de choses. Par exemple, si on voulait faire une histoire de la délinquance sexuelle en France, on aurait le plus grand mal. Pour une raison simple, c'est que on brûlait les procès en même temps que les victimes. Normalement, on censait, par exemple, quelqu'un qu'on trucidait pour pédérastie, par exemple, ou pour acte contre nature, pour zoophilie, par exemple, on ne les trouverait pas parce que ça a été détruit. À quelques rarissimes exceptions près, vous avez un greffier coquin qui met de côté les sacs à procès pour s'amuser. Par exemple, vous ne trouverez pas ça dans les archives du Parlement de Toulouse, où ça, on devrait les trouver normalement. Par contre, je connais une côte à Carcassonne où il y a quelques affaires d'homosexuels pour le XVIIIe siècle. C'est les seuls documents que je puisse trouver pour l'instant pour ça. Donc les Espagnols, eux, ils ont cette chance d'avoir l'Inquisition qui est allée parfois très loin et qui nous montre par exemple que la zoophilie était une pratique courante. Donc, mais on n'en est qu'au début, parce que ça veut dire qu'une fois encore, l'historien répond aux questions qu'on lui pose, souvent. Et on peut avoir des travaux sur l'histoire de la criminalité qui ne développeront pas cet aspect-là. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut que quand on travaille sur la prostitution, on aille chercher dans les travaux sur l'histoire de la criminalité. Alors après, ça pose tout le problème de l'exploitation statistique de données. Par exemple, si je voulais vous donner une image de la criminalité à Toulouse au XVIIe ou XVIIIe siècle, si je prends les archives du Capitula, je vous donnerai une vision. Mais le problème, c'est que je sais pertinemment que c'est faux. Donc, on a des chiffres, mais selon les époques, on criminalise un délit ou on ne le criminalise pas. Au XVIIIe siècle, par exemple, on préférera criminaliser, par exemple, les vols que les violences. Donc, quand vous regardez, vous voyez des cadavres qui sont dans les puits, on ne sait pas comment ils sont venus, comme ça, mais de temps en temps, on vous parle de cadavres qu'on sort. Mais on ne se soucie pas de savoir comment ils sont arrivés. Par contre, on condamnera à mort de pauvres gens. C'est l'idée de Jean Valjean hein, qui se fait condamner aux galères pour deux chandeliers. C'est le même principe. Donc, il n'y a pas de réalité, contrairement à ce qu'ont cru les historiens avec l'histoire statistique pendant longtemps. Il n'y a pas de... ça ne dispense pas d'une interprétation et d'une autre connaissance. Donc, en même temps, une approche statistique pose la question des moyens. Par exemple, à Toulouse, puisque c'est le cas qui peut peut-être le plus nous intéresser et comme vous connaissez sans doute le mieux, les capitouls, ils peuvent pas incarcérer tout le temps les prostituées pour une raison simple, c'est qu'ils savent pas où les mettre. S'ils font une grande rafle, elles sont la plupart du temps à Saint-Cyprien, notamment parce qu'il y a l'armée qui commence à poser ses quartiers à partir de 1750 à Saint-Cyprien. Donc il est facile de les trouver, on sait où elles sont grâce aux dizainiers. En une nuit, on peut toutes les rafler. À aucun moment, ils ne feront ça. Pour deux raisons, parce que s'ils les raflent, comment on gère après? Donc on en prend de temps en temps, celles qui posent problème. Pour l'exemple, donc quelques coups de feu, et pas quelques-uns d'ailleurs, sur tous les verges, quand ce sont les militaires, on les marque, la fleur de lys, et puis on les expulse. Mais c'est censé faire peur aux méchants, c'est le principe de l'exemplarité de la peine. Mais il ne faut pas chercher là-dedans une critique. Ou par exemple, en 1766, si ma mémoire ne me trompe pas, vous avez la prostitution qui fait le buzz, on dirait aujourd'hui, à Toulouse, parce que c'est un objet de conflit entre le Parlement et le Capitoulat. Il y a eu une affaire de prostitution qui a mal tourné, si je puis dire, et les Capitouls se sont, un petit peu empiétés sur la juridiction du Sénéchal. Non, c'est pas le Sénéchal, c'est le Présidial. Et donc, comme le Présidial relève du Parlement, comme le Parlement a envie de mater le Capitoulat, on fait en sorte de faire un arrêt du Parlement pour expliquer au Capitoul comment il faut traiter la question de la prostitution. Si vous considérez rien que ça, vous dites, oula, il y a un gros problème de prostitution à Toulouse en 1766. Si vous dites, peut-être qu'il y a autre chose, et c'est un biais entre le Capitoulat et le Parlement, vous vous dites qu'il n'y a pas plus de problème de prostitution à ce moment-là qu'à un autre, c'est que le problème rebondit là. Quelques temps plus tard, ils vont s'affronter sur la question de l'approvisionnement en bois de Toulouse, comme ils pourront le faire quelques temps plus tard sur la construction de la Dorade, où ce sont d'autres aspects. Là, et si vous faites le pendant entre ça, par exemple, et pour achever de répondre à votre question, sur le nombre de prostituées qui sont alors incarcérées, il n'y a aucune relation. Donc le temps où les historiens pensaient véritablement que l'histoire sérielle, l'histoire quantitative, nous rendait compte de la réalité de phénomènes, ce n'est maintenant plus qu'une corde à notre arc. Souvent, moi je trouve que le discours de gens qui ne connaissent pas un pays et qui sont confrontés à des réalités et qui trouvent, par exemple, vous prendriez ces mêmes récits de voyage sur la France en général et sur la France méridionale en particulier, à aucun moment il n'est question de prostitution. Ils passent les Pyrénées et là, ils trouvent autre chose.
Merci. Alors, un peu rapidement, je vais deux petits points sur le plan de l'iconographie. Celui du XVIIe siècle est marqué par tous les tableaux caravagesques où la prostitution est présentée de manière tout à fait différente que les autres auparavant. Et c'est aussi le développement des Marie-Madeleine repentantes qui apparaissent également à ce moment-là, qui vont très bien avec la grande réforme. Le deuxième point, pour rebondir ce que disait notre collègue Henri Vien tout à l'heure sur le nombre, moi j'y vois trois catégories. Il y a l'occasionnel. Belle de jour qui s'ennuie à la maison parce que Marie fait autre chose et qui, ma foi, se prend la galore et éventuellement arrivé. Il y a le quartier, alors qu'il est vraiment autre chose et qui devient un quartier chaud. Alors, votre frontière franco-espagnole en est un bon exemple, mais on connaissait pour nous à Toulouse le quartier près de la gare d'Atalio qui était évidemment célèbre quand il est toujours. Et puis ensuite, c'est la maison. Voilà, qui est vraiment le bordel d'institution, parce que quand on parle de chiffres en milliers, sinon dizaines de milliers, puisque les chiffres sont difficiles, même un millier, une maison, pour ce que l'on a pu voir, on connaît cette époque-là, étant donné en 45, un peu jeune pour vérifier ce qui se passait avant, mais ça concerne quelques dizaines de filles à une maison. Là, on est à des milliers, ce qui veut dire qu'il y a un problème d'espace, de visibilité. Alors, soit il y en a effectivement, donc, chaque pâté de maison, chaque moulon a sa prostituée, très bien, donc on peut admettre ça, qui fait ça occasionnellement, elle n'avait pas les pantalons et elle fait ça aussi quand on vient chercher la livraison. Et puis ensuite, le quartier était situé, et la maison, alors qu'il y a un cofinancement, au Moyen-Âge, l'Église n'était pas opposée à cofinancer les maisons, et il y avait les vins publics qui ont été en rencontre également. Important, ils peuvent l'être encore. Donc c'est cette division, cette division des lieux et des espaces et du nombre. Parce que vous dites trois bordels pour Madrid, ça ne veut pas en mettre au milieu, pas bordel, pas rien. Alors c'est une ville, il y a un truc colmage.
Et une fois encore, j'ai donné les chiffres parce que c'est les seuls que j'ai. Et je suis content de les avoir. C'est simplement, une fois encore, une sensation de pullulement pour eux. Ils auraient dit 10 000 ou ils auraient dit 20 000, c'est pareil.
Est-ce qu'on a une idée des moyens de contraception qu'elles utilisaient ?
Oula. Normalement, c'est le lavement. ou la pratique dite du retrait, mais je ne pense pas qu'elle était beaucoup utilisée. La pratique du préservatif se développe au XVIIIe siècle. Casanova, par exemple, en était un grand adepte. Et on sait que c'était surtout lié au bordel de la capitale, ou de grands. C'était trop cher pour être utilisé par le plus grand nombre. Donc.
Quelqu'un avait des enfants, certaines.
Oui, d'où l'inflation des abandons d'enfants. Chaque fois. Il y a un parallèle, on le verra à Toulouse, le développement des abandons d'enfants et le développement de la prostitution. Il y a souvent un lien.